Chapitre 5. Cauchemar ambulant. Perrine sauta de son lit, s'empara de sa hache et, malgré le froid, sortit de la cabane en sous-vêtements. Auréolant les nuages de sa lumière blafarde, la lune lui fournit assez de lumière, grâce à ses fichus yeux bien entendu, pour qu'il distingue clairement les silhouettes qui se faufilaient entre les arbres sur tout le périmètre du camp. Des créatures au moins aussi grandes que Loyal, mais au visage semblable à un museau ou à un bec. Des demi-humains affublés de cornes ou de crêtes couvertes de plumes et qui avançaient plus souvent sur des sabots ou des pattes que sur des pieds. Alors que Perrine allait pousser un cri d'alarme, la porte de la cabane de Moiraine s'ouvrit pour laisser passer l'âne, épée au poing.
« Détroloque ! Debout ! Debout tout le monde ! Debout !»
Des cris firent écho à cet appel, puis les hommes sortirent en titubant des cabanes. Vêtus pour la nuit, soit en général dans le plus simple appareil, tous brandissaient une épée. Les trolloques chargèrent en rugissant.
« Pour le chiénard !»
crièrent les défenseurs.
« Et pour le dragon réincarné !»« Pour le chiénard !»« Et pour le dragon réincarné !»«
Pour le chiénard !»« Et pour le dragon réincarné !»
L'âne était tout habillé et équipé, sans doute parce qu'il ne s'était même pas allongé. Comme si ses vêtements de laine étaient des plates d'armure, il fonça à la rencontre des trolloques. Ne faisant plus qu'un avec son épée, il exécuta dans la nuit un ballet de mort frénétique, fauchant les monstres comme de vulgaires épis de blé. Moiraine sortit à son tour et gratifia les créatures de sa propre danse macabre. En guise d'arme, elle semblait n'avoir qu'une cravache, mais chaque fois qu'elle l'abattait sur un trolloque, sa peau s'embrasait sur toute la longueur de l'impact. De sa main libre, l'Aes Sedai invoquait des lances de feu qu'elle projetait ensuite sur les monstres. Foudroyé, il s'écroulait, se roulant à terre pour tenter en vain d'éteindre l'incendie qui les consumait. Touché par un projectile, un arbre se consuma du tronc jusqu'à la cime. Un autre suivit, puis encore un autre. La soudaine lumière blessa les yeux des trolloques, qui hurlèrent de rage, mais ne les empêcha pas de continuer à manier leurs haches de guerre et leurs cimetières. Du coin de l'œil, Perrine vit Leia sortir à pas prudent de la cabane du champion et de l'Aes Sedai. Alors qu'il était très loin de la Zingara, le jeune homme oublia tout le reste. S'adossant à la façade en rondin, la Tuatahan porta une main à sa gorge. À la lueur des arbres en feu, l'apprenti forgeron vit très bien l'expression horrifiée de cet adepte du paradigme de la feuille. Un carnage pareil la révulsait, et ça n'avait rien de surprenant.
« Cache-toi !»
cria Perrine.
« Retourne dans la cabane !»
Comprenant que le rugissement des flammes couvrait sa voix, le jeune homme se mit à courir vers la cabane de Moiraine.
« Leia, cache-toi ! Pour l'amour de la lumière, mets-toi à l'abri !»
Un trolloque au long bec crochu se campa soudain devant l'apprenti forgeron. Une cotte de maille le protégeant des épaules jusqu'aux genoux et des pics saillants de son plastron, le contrefait avait en guise de pied des serres de faucon. Comme beaucoup de ses congénères, il maniait une épée à la lame incurvée. Une odeur de boue, de sueur et de sang agressa les narines de Perrine. Se baissant pour éviter un grand coup circulaire, il cria de fureur et riposta avec sa hache. En toute logique, il aurait dû crever de peur, mais face à l'urgence, il était aisé de s'oublier soi-même. Une seule chose importait, rejoindre Leia et la mettre en sécurité. Le trolloque qui entendait l'en empêcher devait disparaître. Alors que le jeune homme aurait été bien en peine de dire où il l'avait touché, le monstre s'écroula, se convulsant de douleur. Était-il blessé ou agonisant? Aucune importance. Sautant par-dessus son ennemi vaincu, Perrine continua à courir. À la lueur des flammes qui dévoraient les arbres, des ombres démesurées dansaient un peu partout dans la cuvette et sur ses versants. Près de la cabane de Moiraine, une de ces ombres se révéla être un trolloque en chair et en os, qui arborait un museau et des cornes de chèvre. Maniant à deux mains une hache de guerre, il semblait vouloir se jeter dans la mêlée en contrebas, mais ses yeux se posèrent sur Leia.
« Non !»
cria Perrine.
« Par la lumière, non !»
Alors que des pierres glissaient sous la plante de ses pieds nus, il accéléra le rythme, insensible à la douleur.
« Leia !»
cria-t-il, tandis que le monstre levait sa hache. Cet appel sauva la Zingara. Alarmé, le trolloque se retourna, prêt à affronter un adversaire visiblement plus dangereux. Pour éviter un premier coup, Perrine dut se jeter à terre, et le tranchant de la hache lui entama le dos. Par réflexe, il tendit un bras, sentit ses doigts se refermer sur ce qui devait être un sabot, et tira de toutes ses forces. Le trolloque s'écroula et commença à dévaler la pente sur le ventre. Hélas, il eut le temps de refermer sur le torse de Perrine ses deux énormes mains, l'entraînant avec lui. La puanteur du monstre retourna l'estomac de Perrine. La pression exercée par les bras du trolloque lui coupait le souffle, et ses côtes ne résisteraient plus très longtemps à ce régime. En tombant, la créature avait lâché sa hache, mais elle venait de mordre le jeune homme à l'épaule gauche et la douleur, inconcevable, lui tétanisait tout le bras. Sans doute à cause du choc, la vision de Perrine commençait à se brouiller. Encore lucide, cependant, il prit conscience que son bras droit était libre et qu'il avait réussi à ne pas laisser échapper le manche de sa hache. Faisant glisser sa main sur le bois, il tint l'arme horizontalement. Avec un rugissement qui acheva de vider ses poumons, Perrine enfonça la pique de l'arme dans la tempe du trolloque. Aussitôt, le monstre eut un spasme qui se communiqua à tous les muscles de son corps. Puis il lâcha sa proie et continua à dévaler la pente. Par miracle, Perrine réussit à serrer sa hache assez fort pour qu'elle ne lui soit pas arrachée et se dégage naturellement du crâne de la créature agonisante. Un moment, le jeune homme resta étendu, luttant pour reprendre sa respiration. Dans son dos, la blessure lui faisait un mal de chien, et il sentait l'humidité visqueuse du sang sur sa peau. Malgré les protestations de son épaule gauche, il poussa sur ses bras et se releva.
« Les gars !»
La Zingara n'avait pas bougé. À 10 pas de lui, toujours pressée contre la façade de bois, elle regardait Perrine avec une telle commisération qu'il dut résister à l'envie de détourner la tête.
« Je ne veux pas de ta pitié !»
rugit-il.
« Ne va pas croire que... »
Un myrdre Draal sauta du toit de la cabane. Sa cape plus noire que la nuit n'ondulant même pas durant sa chute, qui sembla durer anormalement longtemps, comme si le temps avait ralenti son cours. Rivant son regard sans yeux sur Perrine, le demi-humain fit un pas en avant, une incroyable puanteur de charogne le suivant comme son ombre. Perrine se pétrifia.
« Les gars !»
souffla-t-il.
« Cache-toi, je t'en prie !»
Le blafard observa sa proie, persuadé que la peur le tenait dans ses raies. Avançant avec la grâce d'un serpent, il dégaina une épée si noire qu'elle se serait confondue avec la nuit, sans la lueur des arbres en feu.
« Quand on coupe une patte du trépied !»
grinça-t-il.
« Le reste s'écroule !»
Une voix qui évoquait le crissement du cuir desséché par le temps. Leia agit soudain. Se jetant en avant, elle tenta d'encercler avec ses bras le haut des jambes du blafard. Comme s'il chassait une mouche, celui-ci frappa en arrière avec son épée de ténèbres et ne se retourna même pas pour voir la Zingara s'écrouler. Des larmes perlèrent aux paupières de Perrine.
« J'aurais dû l'aider, la sauver, mon sang. J'aurais dû intervenir. »
Mais sous le regard du myrdre Draal, réfléchir était déjà un effort surhumain.
« Frère, nous arrivons. Oui, jeune taureau, nous arrivons. »
Dans la tête de Perrine, ces mots résonnèrent comme une sonnerie de cloche. Alors que l'onde de choc se répercutait dans tout son corps, les loups déferlèrent dans son esprit. Une bonne vingtaine de tueurs qui déboulaient en même temps dans la conscience de leurs frères et sur le site de la bataille. Des loups gris et blancs des montagnes, très hauts sur pattes, qui chargeaient les contrefaits en ayant parfaitement conscience de la stupéfaction des humains, les deux pattes comme ils les appelaient. Face à cette invasion mentale, Perrine faillit oublier qu'il était un homme. Voyant ses yeux jaunes briller intensément, le myrdre Draal s'arrêta, soudain beaucoup moins sûr de lui.
« Blafard !»
murmura Perrine. Mais un autre nom lui vint à l'esprit, directement inspiré par les loups. Les trolloques, des contrefaits fabriqués pendant la guerre des ténèbres, étaient détestables. Mais les myrdre Draal...
« Jamais né !»
s'écria jeune taureau. Les lèvres retroussées comme des babines, il se jeta sur le demi-humain. Son adversaire avait la souplesse d'un reptile, et son épée noire frappait avec la violence de la foudre, mais il était jeune taureau à présent. Les loups l'appelaient ainsi. Jeune taureau aux cornes d'acier qu'il maniait avec ses mains. Désormais, il ne faisait plus qu'un avec les loups. Devenu l'un d'eux, il était prêt à mourir 100 fois pour détruire un des jamais nés. Acculé à la défensive, le blafard reculait pour ne pas être taillé en pièces. D'abord mordre au jarret, et ensuite au cou. Les loups tuaient ainsi. Jeune taureau s'écarta soudain, mit un genou en terre et visa la jambe du blafard. En d'autres circonstances, le cri de douleur du demi-humain aurait glacé les sangs de Périne. Là, il le combla de joie. Le jamais-né tenait toujours fermement son épée, mais la hache frappa de nouveau avant qu'il ait pu recouvrer son équilibre. Une frappe au cou. Presque tranchée net, la tête du Myrdraal se détacha de son torse pour pendre en arrière dans son dos. Malgré tout, le sbire du ténébreux décrivait encore des arabesques dans l'air avec sa lame. Les jamais-nés mettaient toujours un temps infini à mourir. En plus de ce qu'il voyait autour de lui, des images envoyées par les loups indiquèrent à Périne que des trollocs, sans avoir été blessés, s'écroulaient un peu partout. Liés au blafard, ils crèveraient au même instant que lui, si personne ne les exécutait avant. Périne brûlait d'envie de rejoindre ses frères au fond de la cuvette. Massacrer les contrefaits et traquer le blafard survivant, il y en avait nécessairement un, voilà bien ce dont rêvait jeune taureau. Mais en lui demeuraient les vestiges de ce qui était d'habitude un homme. Lâchant sa hache, il se tourna vers Léa. Le visage souillé de sang, elle le dévisagea, son regard plus accusateur que jamais. Où se faisait-il des idées ?
C'était pour te sauver. Cesse de me regarder comme ça. Qu'aurais-je pu faire d'autre ? Il t'aurait tué si je ne l'avais pas abattu.
Jeune taureau, viens avec nous massacrer les contrefaits.
Porté par la ferveur des loups, Périne se détourna de la Zingara et ramassa sa hache au tranchant rouge de sang. Ses yeux jaunes exorbités, il dévala la pente. Non, jeune taureau dévala la pente. Des arbres brûlaient sur tout le périmètre et un grand pin s'embrasa lorsque jeune taureau se jeta dans la mêlée. Un éclair bleu jaillit quand la lame de l'âne, œuvre d'antique Aes Sedai, percuta celle d'un autre Myrdraal, griffe d'acier noir forgée dans la vallée de Takandar, à l'ombre du mont Shayolgul. Loyal maniait un bâton de combat incroyablement long, fauchant tous les trollocs qui s'aventuraient dans le rayon d'action de cette arme hors du commun. À la lueur des flammes, les deux pattes se battaient de leur mieux. Jeune taureau s'inquiéta néanmoins de voir que plusieurs d'entre eux gisaient sur le sol. Ses frères et ses sœurs combattaient par groupes de 3 ou 4. Évitant les coups d'épée et de hache, ils déchiquetaient les jarrets et les gorges. Quand on luttait pour la survie, il n'était question ni de gloire, ni d'honneur, ni de pitié. Les loups étaient là pour tuer, pas pour guerroyer. Sa hache lui tenant lieu de croc, jeune taureau prit sa place dans un des groupes. Aussitôt, il perdit toute notion globale de la bataille. Il n'y avait plus que les trollocs, lui et les loups. Les frères coupés du reste du monde et résolus à éliminer les contrefaits. Les uns après les autres, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Dans la cuvette d'abord, puis dans le monde entier. Comme ses frères, jeune taureau ne vivait que pour utiliser ses crocs, sa hache dans son cas, et courir à la vitesse du vent. Courir dans les cols de haute montagne, pourchasser un cerf, le ventre s'enfonçant dans la neige. Oui, courir tandis qu'un vent glacial ébouriffait sa fourrure. Alors qu'il grognait avec ses frères, les trollocs couinaient de peur, tétanisés par ses yeux jaunes, qui semblaient les terrifier plus encore que ceux des autres loups. Soudain, jeune taureau s'avisa qu'il n'y avait plus un contrefait vivant dans la cuvette. Au-delà, ses frères poursuivaient les survivants. Une meute de 7 traquait une autre proie dans les ténèbres. Un jamais-né qui courait vers son 4 pattes de corne, son cheval, souffla une petite voix dans la tête de jeune taureau. 7 frères et sœurs le suivaient, les naseaux emplis de son odeur de charogne. Jeune taureau était avec eux en esprit, voyant tout ce qu'il voyait. Alors qu'il gagnait du terrain, le jamais-né se retourna, sa lame d'obscurité et ses vêtements noirs se fondant presque à la nuit. Mais la nuit était le domaine des loups, la complice qui les aidait à chasser. Jeune taureau gémit lorsque le premier de ses frères mourut, partageant sa douleur jusqu'à ce qu'elle s'éteigne à jamais. La meute n'en fut pas découragée, et d'autres frères et sœurs périrent sous les coups du jamais-né. Quand les survivants parvinrent à le jeter à terre, il se défendit avec ses propres crocs, déchirant des gorges, et ses griffes, que les deux pattes nommaient des ongles, fendirent la peau et la chair comme celle d'un ours. Au prix de leur vie, les frères et les sœurs mirent à mort l'ignoble contrefait. Après une éternité de haine et de furie, une sœur survivante s'écarta de l'amas de chair et de fourrure ensanglantée. Brume du matin, voilà comment elle s'appelait. Mais comme tous les noms, celui-ci n'était qu'un aperçu de quelque chose de bien plus vaste. Un matin glacial où planait dans l'air la menace d'une tempête de neige, et au cœur de la vallée, la brume amoureusement caressée par un vent annonciateur de chasses abondantes. Levant la tête, Brume du matin hurla à la lune, pleurant sa mort qu'elle sentait venir. Imitant sa sœur, Jeune Taureau hurla aussi, car il partageait son chagrin. Lorsqu'il baissa enfin la tête, il s'avisa que Mine le regardait fixement.
« Tu vas bien, Perrine ?»
demanda-t-elle, hésitante. Une manche de sa veste déchirée, Mine avait une coupure sur la joue droite. L'air épuisé, elle serrait encore une dague et une massue, toutes deux rouges de sang. Tous les survivants le dévisageaient, s'avisa Perrine. Loyal appuyait à son bâton. Les soldats, qui se tenaient en demi-cercle après avoir porté leurs morts et leurs blessés près d'un feu où Moiraine examinait ces derniers, l'âne accroupi à ses côtés. Du coin de l'œil, l'Aes Sedai aussi observait l'apprenti forgeron. Les arbres en feu produisant toujours une lumière vacillante, Perrine vit que des cadavres de Trollocs gisaient partout. Mais les guerriers du Chiennard avaient payé un lourd tribut à la victoire, tout comme les loups. Tant de sœurs et de frères tués. Sentant qu'il allait de nouveau hurler à la lune, Perrine se coupa mentalement des loups. Un torrent d'images et d'émotions tenta de déferler dans sa tête, mais il tint bon et ne capta bientôt plus rien de la douleur, de la haine, du désir de traquer encore les contrefaits. L'apprenti forgeron se détacha de Jeune Taureau. Redevenu un homme, il constata que sa blessure dans le dos l'élançait. Quant à son épaule gauche, elle semblait avoir été martelée pendant des heures sur une enclume. Ses pieds nus couverts de coupures lui faisaient un mal de chien, et l'odeur du sang lui donnait la nausée. La puanteur des Trollocs et de la mort.
« Oui, Mine, je vais bien. »«
Tu t'es bien battu, forgeron. »
dit l'âne avant de lever sa lame au-dessus de sa tête.
« Taïchar Manéthéren, Taïchar Andor. »
Le vrai sang de Manéthéren et le vrai sang d'Andor. Les rares soldats survivants levèrent également leur épée.
« Taïchar Manéthéren, Taïchar Andor. Taïchar Manéthéren, Taïchar Andor. Taïchar Manéthéren, Taïchar Andor. Taveren, »
dit simplement Loyal. Gênée, Perrine baissa les yeux. L'âne venait de lui épargner un flot de questions auxquelles il ne désirait pas répondre, mais en lui rendant des honneurs qu'il ne méritait pas. Les autres ne comprenaient pas ce qui lui était arrivé. S'ils avaient su la vérité, comment auraient-ils réagi? Mine approchant de lui, Perrine murmura.
« Leia est morte. Je suis arrivé presque à temps, mais... »«
Tu n'aurais rien pu y changer, et tu le sais très bien. »
La jeune femme regarda l'épaule de Perrine, puis son dos.
Moiraine s'occupera de toi. Elle tente de guérir ceux qui ont encore un souffle de vie.
Perrine hocha distraitement la tête. Le sang séché, dans son dos, collait désagréablement à sa peau, et la douleur persistait, mais il s'en apercevait à peine.
Par la lumière, cette fois j'ai failli ne pas revenir. Il ne faut pas que ça se reproduise. Jamais.
Pourtant, lorsqu'il était avec les loups, tout devenait si différent. En ces instants-là, il n'avait plus besoin de redouter que des inconnus aient peur de lui parce qu'il était grand et fort. Et son goût pour la prudence ne passait pas pour de la balourdise. Même quand ils ne s'étaient jamais rencontrés, tous les loups se connaissaient, et avec eux, il n'était plus qu'un frère parmi tant d'autres.
« Non, non !»
pensa Perrine en serrant plus fort le manche de sa hache.
« C'est un signe !»
dit soudain Masséma, faisant sursauter l'apprenti forgeron. Sa poitrine nue couverte de sang, il avait tout juste eu le temps d'enfiler un pantalon avant d'aller se battre, le vétéran promena sur ses compagnons un regard où brillait une ferveur plus vibrante que jamais. Blessé sans doute, mais sûrement pas à mort.
« Oui, un signe pour confirmer notre foi. Les loups eux-mêmes sont venus se battre pour le dragon réincarné. Lors de l'ultime bataille,
le seigneur dragon appellera les bêtes sauvages pour qu'elles viennent lutter à nos côtés. C'est la preuve que nous devons aller de l'avant. Seuls les suppôts des ténèbres refuseront de se joindre à nous.
Deux soldats approuvèrent du chef.
« Tu vas fermer ton fichu clapet, Massema !»
s'exclama Uno. Le sergent Borgne semblait indemne, mais il combattait déjà les Trollocs avant la naissance de Perrine. Cela dit, il paraissait épuisé, seul son œil factice donnant des signes de fraîcheur.
« Nous irons de l'avant, comme tu dis. Quand le seigneur dragon nous en donnera le fichu ordre, collez-vous bien ça dans le crâne, maudit paysan borné !»
Uno regarda la file de guerriers qui attendait d'être soignés par Moiraine. Même après l'intervention de la Aes Sedai, très peu étaient en état de tenir assis.
« Au moins, nous aurons assez de fichus peaux de loup pour tenir les blessés au chaud. »«
Non !»
s'écria Perrine, sa conviction surprenant les lanciers.
« Ils se sont battus pour nous, et nous les enterrerons avec nos morts. »
Uno plissa le front, prêt à discuter ferme. Mais le regard jaune de Perrine le tétanisa. Et ce fut lui qui finit par baisser les yeux. De nouveau mal à l'aise, Perrine se tourna vers Mine pendant que le sergent ordonnait à ses hommes de réunir les dépouilles des loups.
« Où est Ronde ?»
demanda le jeune homme à son ami, qui le regardait bizarrement, comme toujours quand elle voyait des auras et des images.
« Quelque part dans l'obscurité, par là-haut. Il refuse de parler et envoie sur les roses quiconque ose l'approcher. »
« Il me parlera !»
souffla Perrine avant de se mettre en route. Mine le suivit en protestant parce qu'il aurait dû, selon elle, attendre d'avoir été vu par Moiraine avant de s'éclipser.
« Par la lumière, que voit-elle lorsqu'elle me regarde? Je préfère ne pas savoir. »
Juste au-delà du cercle de lumière des arbres embrasés, Rand était assis à même le sol, le dos contre le tronc d'un chêne rabougri. Les bras autour du torse, les mains glissées sous sa veste rouge, comme s'il avait froid, il regardait dans le vide et ne sembla pas remarquer que quelqu'un approchait. Mine s'assit près de lui, mais il ne broncha pas, même quand elle lui posa une main sur le bras. Si loin du champ de bataille, Perrine sentait toujours l'odeur du sang, et pas seulement du sien.
« Ronde !»
commença-t-il. Mais son ami ne le laissa pas continuer.
Sais-tu ce que j'ai fait pendant la bataille ?
Rand continua à scruter la nuit, comme si c'était à elle qu'il s'adressait.
Rien. Rien d'utile. Au début, quand j'ai essayé de puiser dans la source authentique, je n'y suis pas arrivé. Je luttais, mais elle m'échappait, comme si elle me glissait entre les doigts. Quand j'ai enfin réussi, j'avais l'intention de carboniser tous les Trollocs et les Myrdral. Et qu'ai-je fait, à part ficher le feu à quelques arbres ?
Il eut un rire silencieux, puis une moue douloureuse.
Le Saïdin m'emplissait au point que je redoute d'exploser comme une fusée de feu d'artifice. Contraint de le canaliser et de l'expulser avant qu'il me consume, j'ai eu l'idée de faire s'écrouler la montagne afin qu'elle ensevelisse les Trollocs. J'ai presque essayé. Voilà ce que fut mon combat. Il ne m'opposait pas au monstre, mais à moi-même, parce que j'avais l'idée ignoble de nous faire tomber une montagne sur la tête.
Mine coula un regard chagriné à Perrine, comme si elle l'appelait au secours.
« Nous avons réglé le problème sans ton aide, Rand. »
dit l'apprenti forgeron. Pensant aux blessés et aux morts dans la cuvette, il ne put s'empêcher de frissonner.
« Mais ce serait pire si la montagne s'était écroulée. »
Rand appuya la tête contre le tronc d'arbre et ferma les yeux.
« Je les ai sentis venir. »
soupira-t-il.
Sans savoir ce que c'était. C'était comme capter la souillure du Saïdin. Et le Saïdin est toujours là. Il m'appelle et chante pour moi. Quand je me suis avisé que c'était davantage que ça, l'âne était déjà en train de réveiller tout le monde. Si je contrôlais mon don, j'aurais pu vous avertir bien plus tôt. Mais une fois sur deux, quand je réussis à atteindre le Saïdin, je n'ai pas la première idée de ce que je fais. Le flot du pouvoir m'emporte, voilà tout. Mais j'aurais dû vous prévenir. »
Mal à l'aise, Perrine se dandina, et ses plantes de pieds douloureuses se rappelèrent à son bon souvenir.
« Nous avons été prévenus assez tôt. »
Une tentative d'autosuggestion, et ça s'entendait de loin.
« Si j'avais parlé avec les loups, j'aurais pu alerter tout le monde avant qu'il soit presque trop tard. » Ils savaient que des Trollocs et des Myrdraals rôdaient dans les montagnes, et ils ont tenté de me le dire.
Certes, mais s'il avait ouvert son esprit aux loups, n'aurait-il pas été en train de courir avec eux à l'instant même? Comme Elias Matschera, le solitaire qui lui avait fait découvrir son étrange don? Elias vivait en permanence avec une meute, et ça ne l'empêchait pas de savoir qu'il était un homme. Mais il n'avait pas confié son secret à Perrine, qui ne l'avait pas vu depuis un bon moment. Des bruits de pas annoncèrent l'arrivée de deux nouvelles personnes. L'air charriant le rôdeur jusqu'à ses narines, Perrine sut immédiatement que c'était Lan et Moiraine. Il ne prononça pourtant pas de nom avant qu'il soit assez près pour que n'importe qui puisse les identifier. Le champion donnait le bras à Moiraine, comme s'il entendait la soutenir sans qu'elle s'en aperçoive. Le regard vide, Aes Sedai tenait dans une main une statuette en ivoire noircie par l'âge. Représentant une femme, il s'agissait d'un angréal, un antique artefact permettant à une Aes Sedai de puiser davantage de pouvoir dans la source authentique sans risquer d'être carbonisée. Si elle en avait eu besoin pour guérir, Moiraine devait être au bord de l'épuisement. Min se leva pour lui porter assistance, mais Aes Sedai la repoussa d'un geste.
« J'ai vu tout le monde. Quand j'en aurai fini ici, je pourrai me reposer. »
Se dégageant de l'amicale emprise de Lan, Moiraine se concentra, puis passa une main sur l'épaule blessée de Perrine. Ensuite, elle s'occupa de la coupure dans son dos.
« Ce n'est pas très grave, »
dit-elle, alors que l'apprenti forgeron sentait sa peau picoter.
« Cela dit, la morsure et la plaie sont profondes, et... Bref, prépare-toi. Ce ne sera pas douloureux, mais... »
Perrine détestait être près d'une personne qui canalisait le pouvoir, surtout s'il était directement concerné. Il n'en était pas à sa première expérience du pouvoir thérapeutique de Moiraine, mais ses interventions visaient seulement à le débarrasser de sa fatigue à certains moments de crise. Jusque-là, il n'avait pas été blessé. Les yeux de Aes Sedai parurent soudain voir à l'intérieur de son corps. Poussant un petit cri, il faillit en laisser tomber sa hache. Il sentit d'abord les muscles de son dos bouger et palpiter, alors qu'il cicatrisait tout seul. Puis son épaule commença à trembler et sa vision se brouilla. Il eut l'impression que la moelle de ses os se glaçait, puis la sensation de froid devint plus profonde encore. Bougeait-il? Tombait-il? Volait-il? Il n'aurait su le dire, mais il aurait juré qu'il fonçait vers quelque chose et que ce mouvement ne s'interromprait jamais. Après ce qui lui parut une éternité, tout redevint normal. Alors qu'elle s'écartait de lui, Moiraine vacilla, et Lan la reprit par le bras. Secouée, Perrine regarda son épaule, où il ne restait aucune trace de la morsure. Il bougea les bras, et son dos réagit tout à fait normalement. La douleur ayant disparu, il devina qu'il ne restait plus rien non plus de la coupure. Comme pour fêter ça, son estomac grommela.
« Ne tarde pas à manger, »
dit Moiraine.
« Une bonne partie de la force qui t'a guéri venait de toi. Il faut la reconstituer. »
Des images dansaient déjà dans la tête de Perrine. Du bœuf bien saignant, du mouton, du sanglier. Non sans effort, il s'obligea à ne plus penser à de la viande. Une de ses curieuses racines au goût de navet devrait le rassasier quand il aurait le temps de manger. À cette idée, son estomac protesta.
« Il ne reste pas l'ombre d'une cicatrice, forgeron, »
dit Lan.
« La plupart des loups blessés se sont réfugiés dans la forêt, »
souffla Moiraine.
« Mais j'ai soigné ceux que j'ai trouvés. »
Perrine sursauta. Mais Aes Sedai ne semblait pas avoir d'arrière-pensée, si une telle chose était possible.
« Ils sont venus pour des raisons qui les regardent, mais sans eux, nous serions probablement tous morts. »
Gênée, Perrine baissa les yeux. Moiraine tendit la main vers la joue blessée de Mine, mais celle-ci recula d'un pas.
« Ce n'est pas grave, et vous êtes fatigué. Je me suis déjà fait plus mal en tombant toute seule. »
Moiraine n'insista pas et laissa Lan lui prendre l'autre bras.
« D'accord. Et toi, Rand? Es-tu blessé? Une égratignure due à la lame d'un blafard peut être mortelle. Et certains Trollocs manient des armes tout aussi dangereuses. »
Perrine remarqua soudain un détail.
« Rand, ta veste est trempée. »
Le dragon sortit de sous le vêtement une main rouge de sang.
« Ni un Myrdraal, ni un Trolloc, »
dit-il distraitement.
« La blessure que j'ai récoltée à Falm s'est rouverte. »
Moiraine échappa à Lan et se laissa tomber à genoux à côté du jeune homme. Écartant les pans de sa veste, elle examina la plaie. Perrine ne vit rien, car elle lui cachait la blessure, mais l'odeur du sang lui monta aux narines. Aes Sedai bougea les mains, et Rand grimaça de douleur.
Tombant sur la rouge du mont Shayolghul, le sang du dragon réincarné libéra l'humanité des ténèbres. C'est bien ce que disent les prophéties du dragon.
De qui tiens-tu ça?
Si vous utilisiez les chemins ou une pierre portail pour me conduire jusque là-bas,
continua Rand,
nous pourrions en finir. Plus de mort, fini les rêves. La paix, enfin.
Si c'était si simple que ça, je n'hésiterais pas une minute.
Mais tout ce qu'on trouve dans le cycle de Kara-Eton ne doit pas être pris au pied de la lettre. Pour chaque chose incontestable, on en trouve 10 qui peuvent avoir une centaine de sens différents. Même si quelqu'un t'a fait connaître l'ensemble des prophéties, ne va surtout pas croire que tu sais tout de l'avenir.
Moiraine se tut, serra plus fort son angle réal, et passa sa main libre le long du flanc de Rand comme s'il n'était pas couvert de sang.
Serre les dents.
Les yeux écarquillés, Rand se redressa contre son tronc d'arbre. Tremblant comme une feuille, il gémit, puis cria. Tandis que Aes Sedai le soignait, Perrine avait eu le sentiment que la séance durait une éternité. En quelques secondes, ce fut terminé avec Rand, comme ça avait dû l'être avec lui.
« J'ai fait de mon mieux, »
murmura Moiraine.
« Oui, de mon mieux. Tu devras être prudent, parce que la plaie risque de se rouvrir si... »
Sa voix mourant, Aes Sedai s'affaissa. Rand la retint, mais l'âne bondit et la prit dans ses bras. À cet instant, Perrine vit sur le visage de Pierre du champion une tendresse dont il ne l'aurait pas cru capable.
« Elle est épuisée. Tout le monde a bénéficié de ses bienfaits, et il n'y a personne pour lui rendre l'appareil. Je vais la mettre au lit. »«
Rand pourrait... »
commença Mine, mais le champion secoua la tête.
« Je sais que tu ne refuserais pas d'essayer, berger. Mais en l'état actuel des choses, tu risquerais de la tuer. »«
Exact,
lâcha Rand.
Je suis indigne de confiance. Loustérine, fléau de sa lignée, n'a-t-il pas tué tous ses proches? Avant de crever, je ferai peut-être comme lui. »«
Je parlais de ton inexpérience, berger. Allons, reprends-toi. Le sort du monde repose sur tes épaules. Souviens-toi que tu es un homme et agis en conséquence. »
Rand leva les yeux. Étrangement, toute son amertume semblait s'être volatilisée.
« Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, parce que je suis le seul à pouvoir le faire. C'est mon devoir, j'en ai conscience. Mais rien ne me force à aimer ce que je suis devenu. »
Rand ferma les yeux comme s'il allait s'endormir.
« Je lutterai. Les rêves. »
L'âne regarda un moment le dragon, puis il tourna la tête vers Mine et Perrine.
« Mettez-le au lit et prenez un peu de repos aussi. Demain, nous devrons mettre au point des plans. Et la lumière seule, c'est ce qui nous attend encore. »